profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelle et fiction imaginaire, enquête sur d'étranges affaires. Auditeurs de CFM, bonjour. Notre programme. Une histoire de Monsieur Sade, la femme vengée ou la châtelaine de Longeville. Suivra un des grands mensonges de l'histoire, la guerre des étoiles n'aura pas lieu, le projet Star Wars du président Donald Reagan qui a avorté, quoique nous dirons plutôt changé de nature. Et finalement, tiré du nouveau dictionnaire de l'impossible, chercher le vampire, ou comment, en quête d'immortalité, certains paient le prix fort entre les mains d'escrocs qui leur sucent le sang et surtout leur compte en banque. La femme vengée ou la châtelaine de Longeville. Au temps où les seigneurs vivaient despotiquement dans leurs terres, dans ces temps glorieux où la France comptait dans son enceinte une foule de souverains, au lieu de 30 000 esclaves bas rempart devant un seul, vivait au milieu de ses domaines le seigneur de Longeville, possesseur d'un assez grand fief auprès de Fismes en Champagne. Il avait avec lui une petite femme brune, espiègle, fort vive, peu jolie mais friponne et aimant passionnément le plaisir. La dame châtelaine pouvait avoir 25 à 26 ans et monseigneur 30 au plus. Tous deux mariés depuis 10 ans et tous deux très en âge de chercher un peu de distraction aux ennuis de l'hymen, tâchaient à se pourvoir dans le voisinage du mieux qu'il leur était possible. Le bourg, ou plutôt le hameau de Longeville, offrait peu de ressources. Cependant, une petite fermière de 18 ans, bien appétissante et bien fraîche, avait trouvé le secret de plaire à Monseigneur, et depuis 2 ans, il s'en arrangeait le plus commodément du monde. Louison, c'était le nom de la tourterelle chérie, venait tous les soirs coucher avec son maître par un escalier dérobé, ménagé dans une des tours qui avoisinait l'appartement du patron, et le matin elle décampait avant que madame n'entrât chez son époux, comme elle en avait coutume de faire pour le déjeuner. Madame de Longeville n'ignorait nullement la petite conduite incongrue de son mari, mais comme elle était bien aise de se divertir aussi de son côté, elle ne disait mot. Il n'a rien de si doux que les femmes infidèles. Elles ont tant d'intérêt à cacher leurs démarches qu'elles examinent celles des autres infiniment moins que les prudes. Un meunier des environs, nommé Cola, jeune drôle de 18 à 20 ans, blanc comme sa farine, musclé comme son mulet et joli comme la rose qui croissait dans son petit jardin, s'introduisait chaque soir comme Louison dans un cabinet voisin de l'appartement de madame, et bien promptement au fond du lit quand tout était tranquille dans le château. On ne pouvait rien voir de plus tranquille que ces deux petits ménages. Sans le démon qui s'en mêla, je suis sûr qu'on les aurait cités comme des exemples à toute la Champagne. Ne riez point, lecteur, non, ne riez point de ce mot « exemple ». Au défaut de la vertu, le vice bien décent et bien caché peut servir de modèle. N'est-il pas aussi heureux qu'adroit de pécher sans scandaliser son prochain et dans le fait de quel danger peut-être le mal quand il n'est pas su. Voyons, décidez. Cette petite conduite tout irrégulière qu'elle était, ne se trouve-t-elle pourtant pas préférable au tableau que les mœurs actuelles peuvent nous offrir? N'aimez-vous pas mieux le sire de Longeville dûment étendu, sans bruit dans les deux jolis bras de sa jolie fermière, et sa respectable épouse au sein d'un beau meunier dont personne ne sait le bonheur, qu'une de nos duchesses parisiennes changeant publiquement de sigisbée tous les mois ou se livrant à ses valets, pendant que monsieur mange 200 000 écus par an avec une de ces méprisables créatures que déguise le luxe, qu'avilie la naissance et que la vie corrompt. Je le dis donc, sans la discorde, dont les poisons distillèrent bientôt sur ces quatre favoris de l'amour, rien de plus doux et de plus sage que leur joli petit arrangement. Mais le sire de Longeville, qui avait comme beaucoup d'époux injustes la cruelle prétention d'être heureux et de ne pas vouloir que sa femme le fût, le sire de Longeville, qui s'imaginait comme l'éperdri que personne ne le voyait parce qu'il avait la tête à couvert, découvrit l'intrigue de sa femme et la trouva mauvaise, comme si sa conduite à lui n'autorisait pas pleinement celle qui s'avisait de blâmer. De la découverte à la vengeance, il n'y a pas loin dans un esprit jaloux. Monsieur de Longeville se résolut donc de ne rien dire et de se débarrasser du drôle qui flétrissait son front. Être cocu, se disait-il, tout seul par un homme de mon rang, soit, mais par un meunier, oh ! Monsieur Colas, vous aurez la bonté, s'il vous plaît, d'aller moudre à de l'autre moulin. Il ne sera pas dit que celui de ma femme s'ouvre davantage à votre semence. Et comme la haine de ces petits despotes suzerains était toujours fort cruelle, comme ils abusaient souvent du droit de vie et de mort que les lois féodales leur accordaient sur leurs vassaux, monsieur de Longeville ne se résolut à rien moins qu'à faire jeter le pauvre Colas dans les fossés pleins d'eau qui environnaient son habitation. Clodomir, dit-il un jour à son maître queue, il faut que tes garçons et toi me débarrassiez d'un vilain qui souille le lit de madame. Soit fait, monseigneur, répondit Clodomir, nous l'égorgerons, si vous voulez, et vous le servirons troussé comme un cochon de lait. Non, mon ami, répondit monsieur de Longeville, il suffit de le mettre dans un sac avec des pierres dedans et de le descendre en cet équipage au fond des fossés du château. Cela sera. Oui, mais avant tout, il faut le prendre et nous ne le tenons pas. Nous l'aurons, monseigneur. Il sera bien fin s'il se sauve de nous. Nous l'aurons, vous dis-je. Il viendra ce soir à 9 heures, dit l'époux offensé. Il passera par le jardin, arrivera de plein pied dans les salles basses, ira se cacher dans le cabinet qui est auprès de la chapelle et se tiendra blotti là jusqu'à ce que madame, me croyant endormi, vienne le délivrer pour le conduire en son appartement. Il faut lui laisser faire toutes ses manœuvres, nous contenter de le guetter, et dès qu'il se croira à l'abri, nous mettrons la main dessus et nous l'enverrons boire afin de tempérer ses feux. Rien de mieux conduit que ce plan, et le pauvre Colas allait certainement être mangé des poissons, si tout le monde eût été discret. Mais le baron s'était confié à trop de monde. Il fut trahi. Un jeune garçon de cuisine qui chérissait beaucoup sa patronne et qui peut-être aspirait à partager un jour ses faveurs avec le meunier, se livrant plutôt aux sentiments que lui inspirait sa maîtresse qu'à la jalousie qui eût dû le rendre enchanté du malheur de son rival, courut donner avis de tout ce qui venait de se tramer et en fut récompensé d'un baiser et de 2 beaux écus d'or qui valaient moins pour lui que le baiser. « Assurément, dit madame de Longeville, telle qu'elle fut seule avec celle de ces femmes qui servaient son intrigue. C'est un homme bien injuste que monseigneur. Et quoi ? Il fait ce qu'il veut, je ne dis mot, et il trouve mauvais que je me dédommage de tous les jours de jeûne qu'il me fait faire. Ah ! Je ne le souffrirai pas, mamie, je ne le souffrirai pas. Écoute, Jeannette, es-tu fille à me servir dans le projet que j'invente et pour sauver Colas et pour attraper monseigneur ? Assurément, madame, n'a qu'à ordonner, je ferai tout. C'est un si brave enfant que ce pauvre Colas. Je n'ai vu à nul autre garçon des reins si doubles et des couleurs si fraîches. Oh oui, madame, oh oui, je vous servirai, que faut-il faire ? Il faut dès ce moment même, dit la dame, que tu ailles avertir Colas de ne point paraître au château, que je ne le fasse avertir, et le prier de ma part de me prêter l'habillement complet qu'il a coutume de mettre quand il vient ici. Dès que tu tiendras ce vêtement, Jeannette, tu iras trouver Louison, la bien-aimée de mon perfide, et tu lui diras que tu viens à elle de la part de monseigneur, qui lui fait enjoindre de se vêtir des habits que tu auras dans ton tablier, de ne plus venir par son chemin ordinaire, mais par celui du jardin, de la cour et des salles basses, et d'aller aussitôt qu'elle sera dans la maison, se cacher dans le cabinet, qui est à côté de la chapelle, jusqu'à ce que monsieur vienne la chercher, et aux questions qu'elle te fera sans doute sur ces changements, Tu lui diras que cela vient de la jalousie de madame, qui a tout su et qui l'a fait guetter par le chemin qu'elle a coutume de prendre ordinairement. Si elle s'effraie, tu la rassureras. Tu lui feras quelques présents et tu lui recommanderas bien surtout de ne pas manquer de venir parce que, monseigneur, a ce soir des choses de la plus haute conséquence à lui dire relativement à tout ce qui a suivi la scène de jalousie de madame. Jeannette part, elle remplit ses deux commissions au mieux, et à 9h du soir, c'est la malheureuse Louison sous les habits de Colas qui se trouve dans le cabinet où l'on veut surprendre l'amant de madame. « Avançons, » dit Monsieur de Longeville à ces gens qui n'ont plus, que lui n'avait cessé d'être aux aguets. « Avançons. Vous l'avez vu tout comme moi, mes amis, n'est-ce pas ?»« Ah oui, monseigneur parbleu, c'est un joli garçon. » « Ouvrez lestement la porte, jetez-lui des serviettes sur la tête pour l'empêcher de crier. Enfoncez-le dans le sac et noyez-le sans autre forme de procès. » Tout s'exécute au mieux. On bouche tellement l'organe de l'infortuné captive qu'il lui est impossible de se faire reconnaître. On l'enveloppe dans le sac au fond duquel on a eu soin de mettre de grosses pierres et par la même fenêtre du cabinet où cette fait la prise, on la précipite au milieu des fossés. L'opération faite, tout le monde se retire et M. de Longeville gagne son appartement très empressé d'y recevoir sa donzelle qui, selon lui, ne devait pas tarder de venir et qu'il était bien loin de croire si fraîchement placé. La moitié de la nuit se passe et personne ne paraît. Comme il faisait un très beau clair de lune, notre amant inquiet imagine d'aller voir lui-même au logis de sa belle. Quel motif pouvait l'arrêter? Il sort et, pendant ce temps-là, Madame de Longeville, qui ne perdait rien de ses démarches, vient s'établir dans le lit de son mari. Monsieur de Longeville apprend chez Louison qu'elle est partie du logis comme à l'ordinaire et qu'assurément elle est au château. On ne lui dit rien du déguisement parce que Louison n'en avait fait la confidence à personne et qu'elle s'était évadée sans qu'on la vît. Le patron revient et la bougie qu'il avait laissée dans sa chambre se trouvant éteinte, il va prendre près de son lit un briquet pour la rallumer. En s'en approchant, il entend respirer et il ne doute pas que sa chère Louison ne soit venue pendant qu'il allait la chercher et qu'elle s'est couchée d'impatience ne le voyant point dans son appartement. Il ne balance donc point et le voilà bientôt entre deux draps, caressant sa femme avec les mots d'amour et les expressions tendres dont il avait coutume de se servir avec sa chère Louison. Que tu m'as fait attendre, ma douce amie? Où donc étais-tu, ma chère Louison? Perfide, dit alors Madame de Longeville en découvrant la lumière d'une lanterne sourde qu'elle tenait cachée. Je ne puis donc plus douter de ta conduite. Reconnais ton épouse. Et non, la putain à qui tu donnes ce qui n'appartient qu'à moi. « Madame, dit alors le mari sans s'étourdir, je crois que je suis maître de mes actions, quand vous-même me manquez aussi essentiellement. »« Vous manquez, monsieur, et en quoi je vous prie ?»« Ne sais-je pas votre intrigue avec Colas, avec un des plus vils paysans de mes terres ?»« Moi, monsieur, répond arrogamment la châtelaine, moi m'avis dire à ce point, vous êtes un visionnaire. Il n'existe jamais un mot de ce que vous dites, et je vous défie de m'en donner des preuves. » « Il est vrai, madame, que cela serait difficile actuellement, car je viens de faire jeter à l'eau ce scélérat qui me déshonorait et vous ne le reverrez de vos jours. »« Monsieur, dit la châtelaine avec encore plus d'effronterie, si vous avez fait jeter ce malheureux à l'eau sur de tels soupçons, assurément, vous êtes coupable d'une grande injustice, mais si, dites-vous, il n'est ainsi puni que parce qu'il venait dans le château, j'ai bien peur que vous ne soyez trompé. » car il n'y mit les pieds de la vie. En vérité, madame, vous me feriez croire que je suis folle. Éclaircissons, monsieur, éclaircissons. Rien n'est plus aisé. Envoyez-vous même Jeannette que voilà chercher ce paysan dont vous êtes si faussement et si ridiculeusement jaloux, et nous verrons ce qui en sera. Le baron consent. Jeannette part. Elle amène Colas bien stylé. Monsieur de Longeville se frotte les yeux en le voyant. Il ordonne aussitôt à tout le monde de se lever et d'aller reconnaître au plus vite quel est donc, en ce cas, l'individu qui l'a fait jeter dans les fossés. On vole, mais ce n'est qu'un cadavre qu'on rapporte, et c'est celui de la malheureuse Louison qu'on expose aux yeux de son amant. « Oh, juste ciel !» s'écrie le baron. « Une main inconnue agit dans tout ceci, mais c'est la Providence qui la dirige. Je ne murmurerai pas de ses coups. Que ce soit vous ou qui l'on voudra, madame, qui soit cause de cette méprise, je renonce à l'approfondir. Vous vous la débarrassez de celle qui vous causait des inquiétudes. Défaites-moi de même de celui qui m'en donne et que, dès l'instant, Colas disparaisse du pays. Y consentez-vous, madame ?» Je fais plus, monsieur, je me joins à vous pour le lui ordonner. Que la paix renaisse entre nous, que l'amour et l'estime y reprennent leurs droits, et que rien ne puisse les en écarter à l'avenir. Colas partit et ne reparut plus. On enterra Louison, et jamais il ne se vit depuis dans toute la Champagne d'époux plus unis que le sire et la dame de Longeville. Vous êtes bien sûr CFM à l'écoute de l'émission Au plus profond des ondes. Deuxième histoire, dans les grands mensonges de l'histoire, je vais vous parler de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles n'aura pas lieu. L'idée était ébouriffante et relevée de la science-fiction. Le 23 mars 1983, depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président Ronald Reagan annonce à ses concitoyens qu'il a l'intention de doter les États-Unis d'un gigantesque bouclier antimissile. L'imagination aidant, la presse rebaptise aussitôt l'IDS, Initiative de Défense Stratégique, en guerre des étoiles. Et de découvrir un ciel, notre ciel, parcouru de machines tueuses de fusées et de satellites, canons à laser ou infrarouges, missiles d'interception, stations orbitales transformées en forteresses de l'espace, un véritable décor de bande dessinée conçu par un Stanley Kubrick qui serait sous l'emprise d'un autre docteur Folamour. Alors, divagation? Chimère? Non, car ce sont de vrais dollars qui vont être réellement injectés dans les laboratoires de recherche scientifique et militaire. Une pluie de dollars, 30 milliards au bas mot. En même temps, les états-majors du monde, les critiques fusent aussitôt. À commencer par les généraux du Pentagone, qui n'acceptent pas, sans réticence, la remise en cause des règles d'un jeu qui prévaut depuis des décennies. Mais les condamnations les plus fermes viennent sans surprise de l'URSS. L'IDS bouleverse les relations traditionnelles qui existent entre les deux super-grands depuis que l'Ouest et l'Est ont décidé, à Yalta, de fixer leur sphère d'influence. Désormais, que valent alors les traités SALT I et SALT II, au terme desquels le déploiement des missiles était strictement encadré? Cette déstabilisation inquiète aussi les alliés des États-Unis, qui craignent que ces derniers, à l'abri de leur parapluie antinucléaire, ne se replient sur eux-mêmes et négligent la défense de leurs amis. La France, qui dispose de sa propre force de dissuasion, s'interroge également. Si, à l'imitation des Américains, les Soviétiques se dotaient d'un tel bouclier, les bombes françaises deviendraient obsolètes. Après avoir hésité, le président français François Mitterrand, qui doute par ailleurs de l'efficacité de l'IDS, se déclare ouvertement hostile à toute forme de bouclier spatial et refuse la proposition de Reagan d'associer ses alliés aux recherches. Cependant, ayant l'intuition que l'IDS et les milliards de dollars qui y sont affectés permettront aux États-Unis d'enregistrer un formidable bond en avant, sur le plan scientifique et sur le plan technologique, le président français estime que l'Europe ne peut pas rester passive. Il convainc donc son meilleur allié, la République fédérale allemande, de prendre une initiative commune. D'abord, réticent, le chancelier Kohl finira par accepter la création d'Eureka, une initiative de sécurité européenne qui a pour ambition de répondre aux défis technologiques de l'IDS et regroupera 17 pays. Aux États-Unis même, l'initiative de Ronald Reagan fait souvent sourire les sceptiques. Ne serait-ce que parce que beaucoup d'experts considèrent que jamais le bouclier spatial ne sera totalement étanche. Il suffirait qu'il laisse passer deux ou trois bombes thermonucléaires pour que soient anéanties des millions de personnes. Dès lors, est-il raisonnable de confier la sécurité des États-Unis à un système aussi vulnérable et hasardeux? Par ailleurs, dans le secret de ces laboratoires, Edward Teller finit par se rendre compte que ses recherches ne donnent pas les résultats escomptés. En particulier, l'expérimentation de son redoutable laser X capable de pulvériser n'importe quel missile se traduit par un échec. Il reste que dans de nombreux domaines, la recherche scientifique, dopée par cet afflux de dollars, comptabilise de nombreuses avancées. Mais l'un n'est pas le plus important. À l'Est, où malgré les habituelles rotomontades statisticiennes, on accuse un déficit grandissant en matière de recherche et développement. Le pouvoir soviétique essaie de suivre et de ne pas se laisser dépasser dans cette course coûteuse aux armements du futur. En vain. Gorbatchev, numéro un d'un empire exsangue, devra reconnaître que l'URSS n'est plus en mesure de rivaliser avec les États-Unis. La guerre des étoiles aura donc contribué à ruiner l'empire soviétique et par conséquent à hâter sa fin. Ce dont, non sans raison, se glorifieront les sectateurs les plus enthousiastes du cow-boy de la Maison-Blanche. Donald Reagan a peut-être bluffé, mais il a gagné sa partie de poker menteur. La guerre froide terminée, l'IDS avait-elle encore une raison d'être? Peu à peu, la grenouille se dégonfle. Les faramineux budgets de la guerre des étoiles sont rognés. Le président George Bush, senior, transforme le projet réaganien en GPALS, acronyme désignant un système de protection globale limité, c'est-à-dire l'élaboration d'intercepteurs sol-air destinés à détruire des missiles ennemis. Des engins dont la mise au point, longue et fastidieuse, n'aboutira qu'au XXIe siècle. En tout cas, cela signifie que la partie spatiale du rêve, ou du mensonge, de Reagan, a déjà été abandonnée. Ce que confirmera Bill Clinton, qui en 1993 sifflera la fin de la partie. Il reste qu'aujourd'hui, après plus de 30 ans, après le discours d'anticipation de Reagan, les Américains ne désespèrent pas de construire un bouclier antimissile qui ne protégerait plus le territoire des États-Unis de tirs provenant de l'ex-URSS, mais de fusées qui seraient lancées, par exemple, depuis l'Iran, la Corée du Nord, ou un pays musulman tombé aux mains des islamistes. Donc, affaire à suivre. Notre troisième histoire, tirée du nouveau dictionnaire de l'impossible. Chercher le vampire. La dissertation sur les revenants encore, publiée par Augustin Calmet en 1751, fournit un mode d'emploi assez détaillé pour éradiquer les cadavres imputrescibles soupçonnés de véhiculer des vampires. A contrario, dans un ouvrage très bizarre que d'aucuns sur la toile s'accordent à juger culte, Robert Ambelin, 1907-1997, historien spécialisé dans la franc-maçonnerie, l'astrologie, la cabale et l'ésotérisme hard, donne sa recette personnelle pour fabriquer de toutes pièces un successeur à Dracula. L'ingrédient premier, afin de créer une chaîne de moustiques humains à la Twilight, est la dépouille d'une personne aux vertus irréprochables, de préférence en odeur de sainteté, dont l'âme s'est élevée très vite vers les plus hautes sphères. Concentrez-vous sur ce corps et faites-le posséder par quatre entités maléfiques reliées chacune à l'un des quatre éléments, feu, air, eau, terre. Ensuite, vous appelez par leur nom les nouveaux hôtes du cadavre encore intact, lequel, s'il est bien disposé, se matérialisera hors de la tombe pour alimenter en sang frais le corps d'occasion dont il vient d'hériter et de sucer aussitôt l'apprenti sorcier, la première victime du nouveau vampire étant, inévitablement et nécessairement, l'évocateur, qui devenait alors le premier chaînon réellement humain et conscient de la diabolique filiation qui naissait ainsi. Fin de citation. Voilà. On comprendra que je préfère m'intéresser davantage aux investigations lumineuses du docteur Hubert Larcher, 1921-2008. Le seul à avoir publié de réelles études scientifiques sur le mystère des corps incorruptibles. Prolongement de sa thèse de doctorat en médecine qu'il rédigea alors qu'il était chercheur au laboratoire de chimie organique de l'école polytechnique, son ouvrage « Le sang peut-il vaincre la mort ?» est l'exact contraire d'une élucubration vampiresque. On l'a vu dans la précédente entrée, de nombreux corps incorruptibles, ainsi que le précisent les procès-verbaux d'expertise ayant comporté un examen thermique, ont été trouvés constamment tièdes. C'est donc qu'ils génèrent et dégagent de l'énergie. Si elle est d'origine biologique, s'interroge Larcher, comment les tissus disposeraient-ils de réserves suffisantes pour l'alimenter plusieurs années ou plusieurs siècles après la mort ? Ces corps fonctionneraient-ils non pas comme un accumulateur, mais comme un transformateur d'énergie? Cette hypothèse est reprise en 1991 par Georges Pache. L'énergie totale d'un système ne peut excéder une certaine limite. Au-delà, il y a fatalement apport extérieur. Les réflexions du biologiste et le physicien Louis-Marie Vincent suggèrent à ce propos un type d'apport extérieur assez inattendu. Partant du constat que la pensée est une forme particulière de l'énergie et que l'amour en est souvent l'expression la plus puissante, Vincent déclare « Je me demande si l'homme ne serait pas la machine à transformer l'amour en une autre sorte d'énergie. » Mais de quel type d'amour s'agirait-il ? La vénération suscitée par les saints guérisseurs et les faiseurs de miracles alimenterait-elle la conservation de leurs dépouilles ? Cette hypothèse audacieuse peut être envisagée pour des stars déjà consacrées de leur vivant comme Thérèse d'Avila, François Xavier, Bernadette Soubirous, Yvonne Aimée de Malestroit ou Padre Pio, qui avait l'air de sortir de chez la manicure, diront évêque et médecin légiste, lors de son exhumation en 2008. C'est dur, c'est dire que comme il a duré dans la tombe. Mais comment l'appliquer à des anonymes oubliés depuis des siècles comme la jolie romaine aux yeux clairs de la Via Appia ? Doit-on, dans ce genre de cas, envisager comme source d'énergie l'amour de soi, l'admiration nombriliste et posthume par laquelle une âme de Narcisse continuerait d'alimenter de l'extérieur son apparence physique dont elle ne se résout pas à faire le deuil ? On frôle le gag, là. Et cela nous conduit tout naturellement de la tiédeur à la congélation. Les adeptes de l'immortalité artificielle, victimes du mythe de la résurrection des corps inventé par des théologiens déviants, disposent aujourd'hui d'une solution de facilité qu'ils peuvent financer de leur vivant à titre préventif. La cryogénisation. Une assurance sur la mort qui leur coûte entre 30 000 euros pour la congélation de la tête et 200 000 euros pour le corps complet. Frais d'azote liquide et de courant électrique non inclus. Bonjour, le tiroir-caisse. Trois géants du froid se partagent l'essentiel du marché, les Américains Cryonics Institute et Alcor Life Extension Foundation étant désormais talonnés par le russe Cryorus qui gèle aussi les prix. À signaler également pour les plus fauchés, Cryo Freedom, une fondation à but non lucratif qui, depuis 2008, ambitionne de mettre la congélation à la portée de toutes les bourses. Ben oui, chers auditeurs, tout ça est fort sérieux et existe réellement. Mais celui qui a le discours le plus chaleureux est l'Institut de cryogénie dont le site belge met en avant le bénévolat de ses membres actifs. Les membres passifs, eux, ces futurs cadavres acquéreurs d'immortalité par l'azote à moins 196 degrés, peuvent inscrire leurs enfants sur liste d'attente. Car les places sont chères, à tout point de vue. Ici, le plus vieux congelé a 100 ans, le plus jeune 21. Ils sont de toute nationalité et religion. Une tour de Babel réfrigérée en quelque sorte. Sans vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain d'azote, il faut bien reconnaître que le terrain est propice à l'arnaque. N'en déplaise aux draculomanes, les seuls vampires dont l'existence ne soit pas un mythe sont les escrocs, qui vous saignent jusqu'au dernier prélèvement. Ce qui, en l'occurrence, sous couvert de préserver les cadavres, les font fructifier. Vous voyez ce que je veux dire. Money, it's money. Telle cette petite entreprise d'immortalité sous contrat où, suite à des odeurs pestilentielles incommodant le voisinage, on a découvert une cinquantaine de corps décomposés dans leurs thermobouteilles en verre et résine de synthèse. Les responsables de la société avaient disparu après avoir coupé le courant, tandis que les frais de congélation des immortels en puissance continuaient d'être débités sur le compte de leur héritier. Une exception qui ne constitue pas la règle, martèlent les représentants de la profession. Si on les pousse un peu dans leur retranchement, ils nous diront qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Effectivement, c'était déjà fait. À ce jour, plus de 2000 vivants à travers le monde ont contracté une promesse d'achat de survie qui prendra effet le jour de leur trépas. Dès l'obtention de leur certificat de décès, les acquéreurs seront immédiatement cryogénisés, sans recours possible de la part des familles. Ce qu'ils ont signé s'appelle un contrat de suspension. Entendez, suspension du processus de décomposition. Vu l'avancée des nanotechnologies, certains experts prévoient que les premières réanimations pourront être effectuées d'ici moins d'un siècle. Et ce ne sont pas tous des charlots. Trois professeurs de l'université d'Oxford, partageant cette vision de l'avenir, nous apprend Libération, ont fait récemment leur coming out d'immortels sous contrat. Et le célèbre informaticien Ray Kurzweil, qui conseille l'armée américaine sur les nanotechnologies, a confirmé devant le Congrès que la réanimation des morts sera possible d'ici une petite quarantaine d'années. On rêve. En tout cas, le cauchemar a déjà commencé. Insensible aux problèmes de surpopulation, un nombre croissant de souscripteurs se projette ainsi dans la deuxième moitié du XXIe siècle pour échapper aux angoisses du présent. Le doyen de cette pseudo-humanité du futur s'appelle James Bedford. Il baigne dans l'azote liquide depuis 1967. Comme le souligne le site de l'Institut de cryogénie, il a déjà « survécu » entre guillemets à la guerre froide, à la guerre du Vietnam, à la guerre du Golfe, aux attentats du 11 septembre. Dans la bouche de ses promoteurs, l'assurance sur la mort s'apparente finalement à une projection contre la vie. Quel vénard ce James Bedford, tout autant préservés de la décomposition posthume que de l'usure de l'existence. On rit. On lui souhaite une bonne continuation. Mais, comme le rappelle avec une honnêteté joyeusement cynique la publicité d'un de ces marchands de suspension qui vise à abolir l'au-delà, vous ne pouvez pas résoudre tous vos problèmes en les congelant. Je vois qu'il nous reste encore quelques minutes. Je vais vous lire une autre petite histoire de Monsieur Sade. Oh, une toute petite histoire. Le revenant. La chose du monde à laquelle les philosophes ajoutent le moins de foi, c'est au revenant. Si cependant le trait extraordinaire que je vais rapporter, trait revêtu de la signature de plusieurs témoins et consigné dans des archives respectables, si ce trait, dis-je, et d'après ses titres et d'après l'authenticité qu'il eut dans son temps, peut devenir susceptible d'être cru, il faudra bien, malgré le scepticisme de nos stoïciens, se persuader que si tous les contes de revenants ne sont pas vrais, au moins y a-t-il sur cela des choses très extraordinaires. Une grosse madame d'Allemand, que tout Paris connaissait alors pour une femme gaie, franche, naïve et de bonne compagnie, vivait depuis plus de 20 ans, qu'elle était veuve, avec un certain Ménou, homme d'affaires qui logeait auprès de Saint-Jean-en-Grève. Madame d'Allemand se trouvait un jour à dîner chez une madame Duplat, femme de sa tournure et de sa société, lorsqu'au milieu d'une partie que l'on avait commencée en sortant de table, un laquais vint prier Madame d'Allemand de passer dans une chambre voisine, attendu qu'une personne de sa connaissance demandait instamment à lui parler pour une affaire aussi pressée que conséquente. Madame d'Allemand dit qu'on attende, qu'elle ne veut point déranger sa partie. Le laquais revient et insiste tellement que la maîtresse de la maison est la première à presser Madame d'Allemand d'aller voir ce qu'on lui veut. Elle sort et reconnaît Ménou. « Quelle affaire si pressée, lui dit-elle, peut vous engager à venir me troubler ainsi dans une maison où vous n'êtes au point connu ?»« Une très essentielle, madame, répond le courtier. Et vous devez croire qu'il faut bien qu'elle soit de cette espèce pour que j'aie obtenu de Dieu la permission de venir vous parler pour la dernière fois de ma vie. » À ces paroles, qui n'annonçaient pas un homme très en bon sens, Madame d'Allemand se trouble et, fixant son amie, qu'elle n'avait pas vue depuis quelques jours, elle s'effraie encore plus en le voyant pâle et défiguré. « Qu'avez-vous, monsieur ?» lui dit-elle. « Quels sont les motifs et de l'état où je vous vois et des choses sinistres que vous m'adressez ? Éclaircissez-moi au plus vite. Que vous est-il donc arrivé ?»« Rien que de très ordinaire, madame, » dit Ménou. « Après 60 ans de vie, il était tout simple d'arriver au port, grâce au ciel, m'y voilà. » J'ai payé à la nature le tribut que tous les hommes lui doivent. Je ne me plains que de vous avoir oublié dans mes derniers instants, et c'est cette faute, madame, dont je viens vous demander excuse. Mais, monsieur, vous battez la campagne. Il n'y a point d'exemple d'une telle déraison. Ou revenez à vous, ou je vais appeler à moi. N'appelez point, madame, cette visite importune ne sera pas longue. J'approche du terme qui m'a été accordé par l'Éternel. Écoutez donc mes dernières paroles, et c'est pour jamais que nous allons nous quitter. Je suis mort, vous dis-je, madame. Vous serez bientôt éclairci de la vérité de ce que je vous avance. Je vous ai oublié dans mon testament. Je viens réparer ma faute. Prenez cette clé. Transportez-vous en l'instant chez moi. Derrière la tapisserie de mon lit, vous trouverez une porte de fer. Vous l'ouvrirez avec la clé que je vous donne, et vous emporterez l'argent que contiendra l'armoire fermée par cette porte. Ces sommes sont inconnues de mes héritiers. Elles sont à vous. Personne ne vous les disputera. Adieu, madame. Ne me suivez pas. Et Ménou disparaît. Il est aisé d'imaginer avec quel trouble Madame d'Allemand rentra dans le salon de son ami. Il lui fut impossible d'en cacher le sujet. La chose mérite d'être reconnue, lui dit Madame Duplat. Ne perdons pas un instant. On demande des chevaux. On monte en voiture. On se transporte chez Ménou. Il était à sa porte, gisant dans son cercueil. Les deux femmes montent dans les appartements. L'ami du maître, trop connu pour être refusé, parcourt toutes les chambres qui lui plaisent. Elle arrive à celle indiquée, trouve la porte de fer, l'ouvre avec la clé qu'on lui a remise, reconnaît le trésor et l'emporte. Voilà sans doute les preuves d'amitié et de reconnaissance dont les exemples ne sont pas fréquents et qui, si les revenants effraient, doivent au moins, l'on en conviendra, leur faire pardonner les peurs qu'ils peuvent nous causer en faveur des motifs qui les conduisent vers nous. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour des histoires extraordinaires. I'm not a man.